Depuis quelques mois, on sentait une tension se créer entre l'Ukraine et la Russie à propos d'une invasion russe. Jeudi à 6h, heure de l'Europe de l'Est, les Russes sont entrés dans la région du Donbass à la suite de la reconnaissance de l'indépendance des territoires de Luhansk et de Donetsk par la Russie. Déjà 40 soldats ukrainiens ont perdu la vie jusqu'à présent. Pour nous parler de ce conflit complexe, la professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval, Julia Grignon, est avec nous. Bonjour, Madame Grignon.
Bonjour.
Tout d'abord, vous vous spécialisez dans les violations commises dans les conflits armés. Y a-t-il eu des choses qui n'ont pas été respectées dans ce conflit depuis le début du déploiement des troupes à la frontière de l'Ukraine?
La présence russe en Ukraine, elle est assez ancienne. Elle date de 2014, au moment de l'annexion de la Crimée. Oui, il y a eu des violations qui ont été commises depuis 2014. Ce qui change aujourd'hui, c'est l'ampleur des agissements de la Russie sur le territoire ukrainien, et c'est le fait notamment que des grandes villes soient bombardées. Si on parle de ce qui se passe depuis ce matin, depuis la reconnaissance de l'indépendance des républiques séparatistes et les bombardements qui ont lieu jusque dans la banlieue de Kiev, moi j'ai connaissance que des civils sont morts. Je crois qu'il y a 18 civils qui sont décédés dans la région d'Odessa. En revanche, je ne sais pas dans quelles circonstances ils sont morts. Et pour savoir s'il y a eu une violation, il faut connaître les circonstances. En droit international humanitaire, on peut viser des objectifs militaires, et il se peut qu'en visant les objectifs militaires, parfois des civils soient des victimes collatérales de ces bombardements. Et ça, ce ne sont pas des violations à certaines conditions. En revanche, si les civils ont été délibérément visés, alors là, c'est clairement des violations.
Justement, une des affaires qui a fait en sorte que la Russie a percé le territoire ukrainien, c'est lorsque la Russie a reconnu l'indépendance des territoires pro-russes de l'Ukraine en début de semaine. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire, ça, reconnaître l'indépendance d'un territoire?
Alors, en réalité, c'est une déclaration politique. Lorsque vous avez des régions de certains pays qui veulent faire sécession ou sur les territoires desquels vous trouvez des mouvements séparatistes, parfois ces mouvements vont déclarer leur indépendance. Et d'ailleurs, pour ce qui est du Donbass, les déclarations d'indépendance de ces régions elles-mêmes datent de mai 2014. Donc ça fait assez longtemps finalement que ce problème est sur la table. Ce qui est nouveau là, c'est que la Russie, donc un État tiers, vient reconnaître cette indépendance et donc apporter son soutien politique. Et le prétexte dès lors, c'est de dire qu'on soutient ces indépendantistes qui seraient opprimés par l'Ukraine, et donc pour lutter contre cette oppression, on envoie des troupes pour soutenir ces républiques séparatistes. Mais en réalité, ça n'est qu'un prétexte, ça ne sont que des déclarations politiques. En droit international, les reconnaissances de ces régions qui cherchent à s'autonomiser n'ont pas de valeur juridique. Ce qui a une valeur, c'est lorsque ces régions se constituent en État et donc se comportent comme un État et font véritablement sécession des pays auxquels elles appartenaient précédemment.
Pourquoi la reconnaissance de l'indépendance des territoires a frustré les pays occidentaux?
Mais là encore, ce sont des questions politiques. Je crois que, la frustration des Occidentaux à l'égard de la Russie, elle est là aussi de longue date. Ce qui provoque là une réaction très virulente, plus que la reconnaissance de l'indépendance, c'est les agissements de la Russie en Ukraine. C'est le fait que les troupes russes soient rentrées plus avant dans le territoire ukrainien. Et c'est surtout le fait que des grandes villes comme Kharkiv, comme Kiev, soient aujourd'hui victimes de bombardements et qu'également des villes proches de la Pologne aient été visées par les Russes. Et là, c'est clairement un défi à l'égard de l'Union européenne et c'est la Russie qui fait une démonstration de force à l'égard de l'Union européenne.
Madame Julie Grignon, et que ces mêmes pays occidentaux ont précédé à une série de sanctions à la suite de l'indépendance du Luhansk et du Donetsk. Des sanctions contre les banques d'État, contre aussi les membres du Parlement qui ont voté pour la reconnaissance de l'indépendance, ainsi que l'interdiction des transactions financières dans ces territoires. Est-ce que ces sanctions-là, selon vous, ont été efficaces?
Malheureusement, je crois que on voit bien que non, elles n'ont pas été efficaces puisqu'elles n'ont pas empêché la Russie de rester en Crimée alors qu'elles étaient supposées s'en retirer. Elles n'ont pas empêché la violation des accords de Minsk et les très grandes violations du cessez-le-feu qui ont eu lieu depuis lors. Elles n'ont pas empêché Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance du Donbass, et enfin des républiques autoproclamées du Donbass, et elles n'ont pas empêché que Vladimir Poutine décide une invasion majeure sur le territoire ukrainien depuis ce matin. Donc, malheureusement, non, on ne peut pas considérer que ces sanctions ont été utiles. Alors là, ici, on frappe une limite du droit international. La réponse, disons, on ne peut pas répondre de manière illicite à un acte illicite d'un État, comme le commet la Russie aujourd'hui en attaquant les intérêts ukrainiens. Et donc, finalement, les États n'ont à leur disposition que la possibilité de prendre des sanctions civiles. Et donc, ça passe par le biais de sanctions économiques. C'est des sanctions plutôt à long terme. L'Union européenne est en train de se préparer, au moment où on se parle, à un paquet massif de mesures de rétorsion qui visent à affaiblir la capacité de la Russie à se développer, sa capacité à financer la guerre. On peut espérer que sur le long terme, ça a un certain impact. Mais peut-être pour compléter sur les sanctions, non seulement effectivement l'effet est plutôt limité, donc on pourrait les apparenter plutôt à des déclarations politiques, et puis surtout les sanctions, lorsqu'elles sont infligées à un pays, non seulement elles frappent le pays dans ses avoirs économiques, mais elles ont des répercussions sur la population civile. Et ça pose aussi toujours un problème.
Et justement, en parlant de sanctions, en tant qu'experte en droit, est-ce que vous avez une idée des sanctions qui pourraient être envisageables et qui pourraient mettre un frein aux opérations militaires russes, soit à court terme ou à long terme?
Alors, en ce qui concerne la Russie ou ces États qui, de toute façon, se mettent à la marge du droit international et qui, malgré tous les avertissements et toutes les mises en garde, décident d'enfreindre le droit international, il y a en réalité très peu de leviers qui existent. Ce que je peux vous mentionner, c'est que, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme, suite aux agissements de la Russie, cette fois en Géorgie, en Abkhazie et en Ossétie, a rendu un arrêt condamnant les agissements, notamment, de la Russie dans cette région de la Géorgie. Donc on peut imaginer qu'une juridiction comme la Cour européenne des droits de l'homme vienne ensuite condamner la Russie pour ses agissements si des violations sont commises dans le cadre du conflit. Ensuite, il peut aussi y avoir la mise en œuvre d'une responsabilité pénale individuelle, mais pour ça, il faudrait que la Cour pénale internationale soit compétente, et malheureusement, il pourrait qu'elle ne le soit pas dans ce cas. Il faudrait examiner toutes les conditions de sa saisine, mais ce serait très difficile d'aller chercher ces responsabilités-là. Et pour répondre spécifiquement à votre question, je ne crois pas que dans le cas présent, quoi qu'il arrive, elle soit de nature à freiner les velléités russes.
Vous avez soulevé un point en parlant de l'Ossétie. Est-ce qu'on peut comparer un peu les problèmes entre la Russie, le Luhansk et le Donetsk, la même situation que l'Ossétie et l'Abkhazie dans le coin de la Géorgie? Est-ce que c'est les mêmes situations un peu qui se passent?
Alors oui, moi, je ne suis pas une spécialiste des relations internationales ou de la politique internationale ou de la géopolitique de cette région, mais effectivement, on voit des choses qui sont similaires, c'est-à-dire qu'on a dans ces pays qui sont des ex-républiques soviétiques des poches de populations qu'on qualifie de pro-russes, qui reçoivent le soutien de la Russie, et puis, suite à une escalade de tensions, on voit la Russie intervenir au prétexte de soutenir ces républiques autoproclamées qui seraient opprimées par les territoires sur lesquels elles se trouvent. Donc oui, on peut trouver certaines similarités.
Madame Julie Grignon, Vladimir Poutine a envoyé le message suivant, que tout autre pays qui souhaite déranger la Russie dans leurs opérations aura des représailles. Croyez-vous que la puissance de la Russie va faire en sorte que les pays occidentaux n'interviendront pas plus qu'il le faut dans ce conflit?
Alors, je ne sais pas si c'est la puissance de la Russie qui va limiter la réaction des Occidentaux. Ce que j'entends, moi, en ce moment, de la part des spécialistes qui s'expriment à ce sujet, c'est que, visiblement, l'OTAN serait pas susceptible d'intervenir, parce que si ça avait dû être le cas, l'OTAN serait déjà prête à intervenir. Est-ce que c'est une question de capacité? Ça, je saurais pas le dire. Je pense que dans tout ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui en Ukraine, il y a une grande part de politique en réalité, et beaucoup plus qu'une part militaire ou d'opération militaire qui se joue là.
En parlant de militaire, justement, le Canada a retiré ses troupes militaires en Ukraine, et parmi eux, 460 soldats ont été déployés en Lettonie. Quel sera le rôle, selon vous, de nos soldats dans ce conflit?
Alors, à ma connaissance, pour l'instant, aucun rôle, mais il est certain que si les Occidentaux se mobilisent derrière les Ukrainiens face à la Russie, le Canada est un allié naturel de tous les Occidentaux, l'Union européenne qui est concernée au premier chef, et bien entendu des États-Unis qui ont aujourd'hui une réaction politique forte à l'égard de ce qui se passe en Ukraine.
Avec tous les coups de feu entendus ce matin en Ukraine ainsi que des explosions, peut-on officiellement dire que le conflit est rendu une guerre?
Ah, alors ça, c'est une très bonne question. En réalité, aujourd'hui, on ne distingue plus, au plan juridique en tout cas, entre une guerre et un conflit armé. Historiquement, on parlait de guerre lorsqu'il y avait une déclaration de guerre. Aujourd'hui, on parle simplement de conflit armé. Il n'y a plus de distinction entre les deux. Et en réalité, ce conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, il existe depuis 2014. Donc, en tout cas, de mon point de vue, c'est un point de vue juridique, c'est pas un point de vue ni politique ni journalistique. Et je comprends qu'on puisse adopter d'autres points de vue, mais depuis mon point de vue, qui est un point de vue donc juridique, la guerre ou le conflit armé existe en Ukraine depuis 2014, et on a simplement là une intensification de la violence et, au plan géographique, disons, une extension des affrontements sur le territoire de l'Ukraine.
C'était Mme Julia Grignon, professeure à l'Université Laval à la Faculté de droit. Elle nous a parlé du conflit qui se déroule présentement entre l'Ukraine et la Russie. Je vous remercie énormément, Mme Julia Grignon, pour avoir pris du temps pour cette entrevue. C'est très apprécié.
Mais je vous remercie de votre invitation et de vous intéresser à ces questions.